cours inaugural par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 30 septembre 1993.
Saint Thomas, au début de la Somme, rappelle qu'il y a trois sagesses. Et dans la règle, nous avons repris ça au point de vue de notre manière de former notre intelligence au service de Dieu. Important de comprendre que pour saint Thomas, la sagesse est un habitus contemplatif. L'expression est très forte dans saint Thomas, habitus contemplativus, c'est-à-dire que la sagesse permet à notre intelligence d'aller jusqu'au bout ses exigences de la vérité. L'intelligence est faite pour contempler. Et c'est dans la mesure où elle remonte toujours à la source qu'elle peut contempler. On ne contemple qu'une personne. Parce que la personne, de fait, nous aurons l'occasion de le redire, c'est la réalité parfaite, spirituelle. On ne contemple pas un caillou, mais on l'analyse. Alors évidemment, on peut le contempler au point de vue esthétique, d'une certaine manière. Il y a des roches qui sont très belles, qui sont des cailloux, mais particulièrement beaux, qui reflètent la lumière. Alors, il y a une certaine contemplation esthétique. Celle-là ne regarde pas la personne, elle regarde la figure, qui est l'expression de la personne. Mais qui n'est pas la personne dans ce cas-là de radical et de fondamental. Et cette contemplation esthétique, artistique, n'est pas la contemplation parfaite. Pourquoi ? Parce qu'elle ne finalise pas notre vie spirituelle. Elle nous aide. C'est comme une disposition très belle. Maintenir en nous une sorte d'admiration. La beauté séduit et maintient cette admiration. Mais seule la contemplation de la personne donne à notre intelligence toute sa signification. Les sciences modernes dans le sens que elles ne sont pas enracinées dans le patrimoine de notre culture qui est la Grèce d'une part au point de vue philosophique et qui est la révélation judéo-chrétienne, d'autre part, pour notre foi. Les sciences sont nées après, sauf les mathématiques. C'est toujours intéressant de voir comment problématique. En premier lieu, peut-être même avant la philosophie. Je dis peut-être, parce que la philosophie, elle est sagesse, et la sagesse est apparue au point de départ comme ce qui permet aux hommes d'ordonner leur vie. Et donc il y a eu une sagesse politique, une certaine sagesse politique. Les sages dans l'Antiquité, ce sont ceux qui sont capables de juger, de discerner le bien et le mal, et de conduire les autres vers leur perfection. Mais ce qui est net, c'est que les mathématiques ont donné naissance à toute une série de sciences. Et les mathématiques ne sont pas sagesse. Les mathématiques ne regardent pas la fin de l'homme, ce pourquoi l'homme est fait. Les mathématiques impliquent une certaine contemplation, elle aussi, parce que elle s'ordonne, mais elle s'abstrait de l'homme et de la finalité de l'homme. Elle ne regarde pas l'amour qui nous permet de rejoindre la personne dans ce qu'elle a de plus secret, de meilleur. De sorte que la première chose que saint Thomas souligne, c'est cette sagesse philosophique. Et c'est très important de voir que, de fait, il maintient à la philosophie son droit ou ses exigences de sagesse, de contemplation. Vous voyez, on serait quelquefois tenté de dire que la foi supprime à la philosophie ce point de vue de sagesse. Et alors on ramène la philosophie à la logique. C'est la tentation permanente. Quand on regarde l'histoire de la philosophie dans notre Europe, plus que du côté de l'Inde, c'est curieux du reste. On essaiera de comprendre pourquoi du reste. On voit que très facilement, l'homme, le croyant, se contente de la foi et oublie le développement de son intelligence. Ce que l'Église n'aime pas, puisqu'elle a condamné le fidéisme, maintient tout le temps ce point de vue qui est du reste dans l'Écriture, dans la Révélation. C'est que la grâce ne supprime pas la nature. Donc la foi ne supprime pas l'intelligence. Elle est au contraire un appel à l'intelligence constant. Aussi bien du côté spéculatif, c'est-à-dire théorétique, contemplatif, que du côté pratique. Et c'est pour ça que Thomas d'Aquin maintient cette sagesse philosophique. Mais très vite, après lui, avec Occam, la sagesse philosophique est devenue une logique. Or, la logique n'est pas contemplative. La logique dévoile. mouvement s'est développé dans les idéologies. On a beaucoup de peine, vous voyez, et c'est même très curieux, on a beaucoup de peine à maintenir une philosophie sagesse. Les idéologies ne sont pas une sagesse. La logique n'est pas une sagesse. La critique n'est pas une sagesse. Donc quand on maintient que la philosophie est une sagesse, on veut montrer qu'il y a un cheminement qui conduit par l'intelligence, qui conduit à la réalité suprême que les traditions religieuses appellent Dieu, que notre intelligence est capable d'aller jusque-là et qu'elle doit le faire dans la mesure où elle peut le faire. La logique reste fixée sur l'être de raison, l'universel. La critique reste fixée sur ce qui est le vécu de notre intelligence, l'intentionnalité. Les idéologies restent fixées sur nos idées, nos concepts. Et donc, l'aspect subjectif reste premier. On essaie de découvrir une objectivité dans la subjectivité. Dans ce qui provient de nous, on découvre un ordre, mais c'est toujours dans l'immanence de notre vie intellectuelle. Tandis que la sagesse contemple l'autre et l'autre suprême, ce qui est avant nous, ce qui est premier, ce qui est source, ce qui est caché, mais qui se révèle à nous, qui se manifeste. C'est tout cet effort de la philosophie de découvrir cela. C'est pour ça que maintenant et que l'Église nous demande, faut pas l'oublier, c'est dans l'obéissance qu'on fait ça. On le fait aussi parce que on est convaincu que si, quand la théologie dévie, c'est toujours à cause de la philosophie. Et aussi un manque de foi. Parce que si on avait une foi plus grande, on obéirait à l'Église. Mais on veut faire plus quelque chose d'original que la recherche de la vérité. Alors, on dépiste les grandes confusions modernes. De fait, la philosophie a dévié de façon remarquable au point de vue de l'histoire de la philosophie depuis 150 ans. Toutes les idéologies qui sont nées en Europe et qui se sont prolongées en Amérique et qui actuellement s'emparent de la des hommes, de la culture. Notre culture actuelle est une culture qui est marquée de ces idéologies. Ils s'emparent de l'Afrique, ils s'emparent du monde entier et de l'Asie aussi. Bien que l'Asie ait gardé plus profondément une sorte de philosophie pratique enraciné. Vous voyez, c'est quelque chose que nous devons essayer de comprendre. Comment la foi, le berceau de l'Église, c'est quand même l'Europe. Ça a commencé par le Christ. l'Esprit Saint lui a demandé. Et Rome représentait la culture, une certaine culture, représentait l'autorité, représentait une force extraordinaire. En Asie, il y a eu un partage qui s'est fait à ce moment-là, voulu par l'Esprit Saint. Il faut tout le temps revenir à ça, parce que c'est l'origine. Et il y a eu quand même là quelque chose de l'Esprit Saint. C'est les actes des apôtres qui nous montrent cela. Et les actes des apôtres, c'est les premiers pas de l'Église. Souvent relire les actes des apôtres, parce que c'est très important de voir comment l'Esprit Saint a conduit ce petit peuple attaché au Christ, qui était avant tout une famille religieuse, chrétienne. Seconde sagesse, la sagesse théologique. Vous voyez, les deux sagesses acquises, c'est la philosophie et la théologie. Et saint Thomas, au point de vue théologique, c'est le premier qui a voulu introduire l'intelligence dans ce qu'elle a de plus pénétrant, une intelligence métaphysique, une intelligence de philosophie première, une intelligence qui est capable de réfléchir sur tout ce qu'elle peut atteindre d'absolu au service de la foi. C'est ça qu'il faut arriver progressivement à comprendre, que saint Thomas est le père de la théologie scientifique. Là, il est source. Saint Thomas n'est pas source au plan philosophique. Il a plus. Il a la sagesse théologique. Et il se sert de la philosophie grecque. Ça, c'est l'intelligence de Thomas d'Aquin, ce pourquoi il était fait. La sagesse théologique est acquise. C'est l'homme croyant qui met au service de la parole de Dieu tout ce qu'il a comme science. La sagesse théologique, on aura l'occasion de le voir, il y a différentes parties, je vous le disais hier. Le sommet de la sagesse théologique, c'est la théologie mystique, qui n'est pas la mystique, mais qui est la réflexion de l'intelligence sur l'action de l'Esprit Saint en nous, dans ce qu'elle a d'ultime. Et enfin, il y a le don de sagesse, don du Saint-Esprit, qui n'est pas acquis, qui est donné, qui est invu, et qui nous permet de vivre une vie intérieure dans ce qu'elle a de plus profond, leur raison, notre adoration, qui permet d'être des amis. Le philosophe et le théologien, ce sont des serviteurs, des grands serviteurs. Dans tandis que la théologie mystique fait de nous des enfants de Dieu. Toute la différence. Et nous devons toujours maintenir les trois si nous voulons être parfaitement ce que l'Église nous réclame de nous. J'allais dire, surtout ici, dans la communauté Saint-Jean, et tous ceux qui sont les amis de la communauté Saint-Jean. Parce que la grande crise de l'Église est une crise au plan théologique. Vous voyez, il y a eu des saints et des petites saintes comme Thérèse de l'Enfant Jésus. Et elle a manifesté suffisamment qu'elle était glorifiée par Dieu. Tous les miracles de la petite Thérèse. Et les hommes n'ont pas du tout compris. Ils ont continué absolument leur route comme si ça n'existait pas. Qu'est-ce qui s'occupe de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus? Parmi ceux qui gouvernent le monde. Qu'est-ce qui s'occupe d'un saint Jean de la Croix, d'une grande sainte Thérèse, parmi ceux qui gouvernent le monde? Thomas d'Aquin, un peu plus, parce que l'intelligence est manifestée d'une manière plus forte. Tandis que dans saint Jean de la Croix, la petite Thérèse, c'est un primat absolu de l'amour. Mais d'un amour qui assume l'intelligence, qui n'est pas contre l'intelligence. Tous les mystiques qui sont contre l'intelligence, l'Église les a rejetés. Toujours. La petite Thérèse dit, j'ai recherché toute ma vie la vérité. Et elle dit ça le jour de sa mort. Donc on ne peut pas dire qu'il y a eu une étape dans sa vie où elle a abandonné l'intelligence et la recherche de la vérité. Non. Un saint Jean de la Croix a recherché toute sa vie la vérité. C'est ça que l'Église maintient toujours. Parce que le don de sagesse, c'est le don de sagesse qui est source de la contemplation et de la contemplation mystique. C'est donc l'intelligence liée à l'amour ou l'amour assumant l'intelligence et transformée par la grâce, par le point de vue de la foi et de la charité. Les dons du Saint-Esprit font vivre une vie mystique. Et les dons du Saint-Esprit, nous les avons tous. Mais nous ne demandons pas assez au Saint-Esprit de nous conduire. Saint Paul nous dit avec force, ne résistez jamais à l'Esprit Saint. Alors il ne s'agit pas de confondre nos fantaisies avec l'Esprit Saint. Là, il y a un discernement qui est très important. Parce que si on confond nos fantaisies avec l'Esprit Saint, ça ne va plus du tout. C'est l'imagination. Et c'est l'imagination qui l'emporte. Ce n'est plus l'amour. L'imagination est l'ennemi de l'amour. Ça, il faut bien se dire ça. Il y a une imagination qui est très belle. L'imagination du poète. L'imagination de l'artiste. C'est une imagination qui est au service de l'art. Il y a une imagination qui est très belle, au service de l'amour. Une sainte Thérèse, un saint Jean de la Croix, dans ses poèmes. Alors c'est le sermo sapientiae, c'est l'Esprit Saint qui nous donne ce charisme étonnant du sermo sapientiae. L'envie flamme d'amour, c'est le sermo sapientiae. Dans Histoire d'une âme, c'est le sermo sapientiae, très différent. Parce parce que le Saint-Esprit, il a des tonalités multiples. Mais c'est toujours le lien profond entre l'intelligence et l'amour. En comprenant bien la distinction que Thomas d'Aquin fait et que nous devons faire et qui n'est pas commode pour nous à faire, entre intelligence et raison. La raison, pour saint Thomas, c'est notre manière d'être intelligent, c'est-à-dire la manière la plus faible, comparativement aux anges, nos frères aînés, qui eux sont intelligents sans raison. C'est une intelligence intuitive et purement contemplative. Les anges ne raisonnent pas, tandis que nous nous raisonnons, nous raisonnons, nous raisonnons. Or, la raison comme telle ne peut pas atteindre Dieu, parce que c'est la manière dont nous connaissons, et ce n'est pas le contenu de notre intelligence. À cause de la raison, il y a une logique. À cause de la raison, il y a une critique. Mais l'intelligence comme telle est au-delà de la logique et au-delà de la critique. Si on ramène la philosophie à la critique Kant, si on ramène la philosophie à la logique Occam, les quelques grands tournants de chute, il n'y a plus de sagesse, il n'y a plus de contemplation. Et pour saint Thomas, l'intelligence est faite pour connaître ce qui est dans l'homme. C'est l'homme qui intéresse le philosophe. Et ce qui intéresse le théologien, c'est Dieu. Et ce qui intéresse la mystique, c'est l'homme en Dieu. Et Dieu dans l'homme, c'est le lien profond des deux. Mais c'est toujours Dieu quand même en premier lieu. Mais c'est très net que la philosophie regarde l'homme dans toutes ses dimensions. Donc, elle regarde la personne de l'homme. C'est pratiquement ces trois sagesses que nous devons tout le temps maintenir dans notre vie. Nous commençons toujours par la sagesse mystique. À peine levé, on va à la chapelle. Pas pour dormir, mais pour faire oraison. Et faire oraison, c'est le cri de l'enfant qui dit à l'Esprit Saint, viens me prendre, sans toi je ne peux rien faire. Et c'est vrai, quand l'Esprit Saint se tait, notre oraison consiste à crier. On appelle le biberon. On crie, on crie, on crie, on crie. Le biberon mystique. C'est-à-dire, on appelle le baiser de l'Esprit Saint. On soupire après. On supplie, on supplie, on supplie. Et on fait des actes d'adoration pour mieux supplier, pour mieux crier, dans le silence. La liturgie, après, exprime notre louange à Dieu. Puis après, on vient ici, avant de manger, vous voyez. Parce qu'on veut montrer à Dieu que pour nous, la vie de l'esprit est avant notre corps. Chaque fois que vous venez ici avant le petit déjeuner, vous témoignez ça. Dans notre monde d'aujourd'hui, le corps est plus important dans son exaltation que l'esprit. Il y a des gens qui ne cherchent qu'une seule chose, c'est magnifier le corps. C'est pour ça que le Saint-Père dit qu'il faut une philosophie du corps pour montrer ce qu'est le corps. Parce que devant cette manière de magnifier le corps, il y a un coup, le rejet du corps, on le rejette. C'est horrible. On ne veut pas ça. Et on retourne à Platon. Le platonisme a une très grande force aujourd'hui. Il en a toujours eu du reste. Et puis, parce que la grâce est donnée à l'esprit, à l'âme spirituelle en premier lieu. La grâce ne transforme pas en premier lieu notre visage. Elle est cachée, la grâce. Et petit à petit, on a la tête de l'emploi. Et ça met du temps. Ça met du temps. Et il n'y a pas un réservoir ici de tête de vieux moine. Et puis on vous coupe la tête pendant le noviciat. Et puis on vous met une tête greffée de vieux moine. Non, ça n'existe pas. Mais spirituellement, c'est ce qu'on doit faire. C'est ça. On vous coupe la tête constamment. Obéir, obéir, obéir. Alors au bout de 6 mois, au bout d'un an, vous dites j'en ai assez, j'en ai assez, j'en ai assez. Il y a des espèces de petites révoltes. Parce que on est tous des révolutionnaires en herbe. On dit oh non, quand même. L'autonomie, la dignité de la personne, qu'est-ce que vous faites ? On est en train de greffer une tête de moine, quoi. Et la tête de moine qu'on greffe, c'est pas commode. Au milieu de l'opération, on a envie de dire non, 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 non. C'est normal, ça. Parce qu'on est dans la lutte. Et quand on entre dans la vie religieuse, on choisit d'être en première ligne du combat. Alors en première ligne du combat, il y a une infirmerie par derrière. Et il y en a certains qui aiment mieux de rester dans l'infirmerie que de rester en première ligne. Parce que dans l'infirmerie, au moins, on peut se reposer un peu. Et on se repose même dans l'oraison. C'est le père Dou qui disait qu'il fallait bien faire attention entre le ronronnement du chat auprès du feu l'hiver et le vol de l'aigle. L'oraison, ça doit être le vol de l'aigle. Et si ne faisant pas grande attention, très vite, c'est le ronronnement du chat. Et alors on est très bien. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Moi, je suis un homme d'oraison. Je suis un homme de ronronnement. Il y a le petit chat qui ronronne et puis il y a l'aigle. En nous, il y a les deux. Hein. Et il y a un moment où on doit opter. Hein. Et on doit opter tous les jours. Je veux être le vol de l'aigle sous le souffle de l'Esprit Saint. Alors à ce moment-là, l'Esprit Saint et le Père taillent. Nous devons toujours maintenir ces trois sagesses. Autrement, ce n'est plus l'école Saint-Jean. C'est pour ça qu'on n'est pas une université. Parce que les trois sagesses ne sont pas proclamées dans les universités françaises, ni germaniques. Elles sont proclamées dans très peu de lieux. Parce que on croit qu'il faut laïciser tout pour être intelligent. L'intelligence française est devenue une intelligence de gauche, c'est-à-dire laïque. On rejette Dieu. Et on voit pas qu'en faisant ça, on fait des nains. Des nains au point de vue de l'intelligence. C'est-à-dire que l'intelligence est complètement absorbée par la raison. Et c'est la dialectique hegelienne qui l'emporte. Alors, Hegel peut être un génie, mais il y a quelque chose qu'il n'a pas atteint. Il est resté auprès de notre manière de connaître. Il y a un primat de l'idée la sagesse philosophique ne peut jamais être rivale de la foi. Si on recherche la vérité, c'est pour ça qu'on n'hésite pas de faire une prière au début d'un cours de philosophie. Je ne change pas d'habit quand je fais de la philosophie, parce que je pourrais me mettre en Pékin, n'est-ce pas, en disant on fait de la philosophie comme ça uniquement. Pas du tout. On sait distinguer sans séparer, ce qui est très difficile depuis Don Scott, depuis Octave. Chaque fois qu'on distingue, immédiatement, je le vois quand je demande, toujours, n'hésitez pas de poser vos questions. Et c'est tout le temps, on a distingué, les gens ont reçu séparation. C'est très très curieux ça. De totale confiance. S'il n'y a pas cette totale confiance, on n'avance pas. Et si on met la critique avant la recherche de la vérité, on n'avance pas. Alors, il faut dépister tout ce genre de frein, de retour en arrière, qui est constant, qui est constant. On est formé, on a ces modifications qu'on veut à tout prix à l'égard de la fécondité. Tout ça. ça est le fruit d'une critique première qui tue la fécondité. Le démon, par tous les moyens, veut tuer la fécondité. Alors il faut être très attentif à ça. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, la critique est première. Et si on se laisse prendre par le point de vue du climat d'aujourd'hui, la critique est première. Et on stérilise tout. Le petit enfant de Dieu qui est en nous va mourir. Il agonise. Et il n'a plus cette liberté intérieure. C'est très très important ça. Et c'est pour ça que je dis un climat familial. Parce que dans un climat familial, on a avant tout confiance les uns par rapport aux autres. Confiance dans l'ordre surnaturel et mystique. Confiance dans l'ordre intellectuel. Saint Thomas souligne qu'au point de vue intellectuel, ce qui est premier, c'est la foi, c'est la confiance. S'il n'y a plus la confiance, on n'avance plus. On devient des autodidactes. Et des autodidactes, ça va pas loin, vous savez. Et c'est pas fécond. C'est le mulet. Et on reste dans ses idées, ses a priori, on ne veut pas les quitter. Alors que la philosophie doit arriver progressivement à supprimer tous nos a priori. Parce que on part de l'expérience. On part de l'expérience. Donc un climat de confiance, c'est très très important ça. Un climat de prière, confiance à l'égard de l'Esprit Saint. Un climat de confiance à l'égard de ce que représente cette recherche que nous faisons tous. Ceux qui vous enseignent cherchent la vérité. Alors, comme mœurs, vous voyez, parce qu'il faut acquérir des mœurs familiales au niveau intellectuel, ce qui est très important pour maintenir cette recherche, cet appel constant. Demande ordinairement de ne pas interrompre le cours. Oui, parce que c'est vrai, je dois dire, n'hésitez pas de lever la main et puis dire, mon père, là, je comprends pas. Quand on le fait, ça agace un certain nombre. C'est normal. Mais dès que vous avez une question, ayez toujours un petit papier hein, sur lequel vous écrivez, tiens, là, je comprends pas. Alors, évidemment, au début, hein, mais soyez suffisamment intelligent et critique par rapport à vous-même pour retenir telle question à tel cours. Et ces questions, vous les remettez au Père Marie-Dominique qui fait un petit tri. Pas du tout par rapport aux personnes. Ne signez pas. Évidemment, reconnaît votre écriture. Mais ça fait rien, oui, il ne faut pas les taper à la machine. Mais c'est pas du tout pour. Je dis ça parce que vous pouvez les taper à la machine, hein, c'est plus facile à lire. Que quand il y a des écritures de très particulières, d'écritures d'intellectuels, Saint Thomas, c'était l'illisible. Il n'y avait qu'un seul frère qui savait le lire, frère Réginald, parce que frère Réginald aimait beaucoup Thomas d'Aquin. Alors grâce à l'amour, il découvrait l'illisible. Alors vous écrivez correctement, autant que possible. Vous n'avez pas besoin de signer. Vous pouvez signer si vous voulez, ça m'est égal. Hein. Mais vous notez vos questions. Alors vous avez deux manières, et ça c'est important, parce qu'il y a toujours un dialogue qui doit se faire. Vous avez le parrainage qui vous aide, auquel vous posez toutes vos questions. Il faut d'abord comprendre le langage philosophique. Donc, premièrement, tous les mots que vous ne comprenez pas. C'est très important. J'espère toujours qu'on arrivera à faire un petit dictionnaire philosophique pour ceux qui commencent. Alors on aurait ce petit à côté de soi, mot. Tiens, intentionnalité. Qu'est-ce que ça veut dire, intentionnalité? C'est vrai, c'est un de ces mots. On est obligé de l'employer. Il est courant en philosophie. Pratano l'a remis très en lumière. Mais il est dans la philosophie de saint Thomas. Il est à l'état embryonnaire chez Aristote. Intentionnalité. Pas commode. On a des intentions. Ça, tout le monde comprend, je crois. Vous avez une intention de chercher la vérité. Vous avez ce désir et cette intention de vie. Chercher ce que c'est que la vérité. Mais on est passé de ce mot intentionnalité morale, éthique, au niveau intellectuel. L'intentionnalité, c'est ce que vous saisissez de la réalité et ce que vous gardez en vous. Le vécu de votre intelligence est au niveau de l'intentionnalité. Le vécu de votre amour est au niveau de l'intentionnalité. C'est tout ce monde d'immanence que nous portons en nous. Et c'est devenu tellement fort que justement, on l'a thématisé, encore un mot barbare. C'est-à-dire, on l'a rendu objectif. On a objectivé ce mot intentionnalité. Et c'est la critique qui étudie le vécu de mon intelligence. Donc, comment dans mon intelligence, je connais la réalité et je forme ce monde en nous. Alors, comprenons, voyez, que dès que vous avez une question, si vous voulez progresser, vous l'écrivez. Vous la communiquez à ceux qui sont pour vous les parrains, parce qu'il n'y a pas encore de marraine. Les parrains. Les marraines, c'est de l'autre côté de la barrière. Alors, c'est sont nos sœurs qui, elles, ont leur rythme à elles. Et ceux qui sont les étudiants à côté de la communauté, ça, je crois qu'on les a déjà vus pour expliquer un peu comment on doit respecter le silence. C'est très important. Après un cours, on a toujours envie de parler. On est dans un climat de silence ici, ce qui ne peut pas exister en Sorbonne. Dommage. Si on respectait la vérité, on aurait un climat de silence après les cours. Ici, on l'a. Alors, ceux qui sont des étudiants et des étudiantes qui ne sont pas dans la communauté, c'est évident, peuvent parler en dehors, mais pas tout de suite dans la cour immédiate. On peut parler en dehors. Je crois que c'est très très important de maintenir ce climat. Si on a quelque chose d'urgent à dire, on entre dans une des salles. Il faudrait que nos corridors soient silencieux. Donc je sais très bien qu'il y a des choses qu'on doit dire tout de suite, alors on peut les écrire sur un papier et puis les communiquer. Pour garder le plus grand silence pendant le cours. Ah, du reste, si vous parlez pendant le cours, vous savez, moi, j'interviens, je dis, hein, vous pouvez partir. Je comprends très bien que ceux qui ne parlent pas le français ont besoin quelquefois. Alors là, c'est différent. Mais on doit garder le silence pendant le cours. C'est très très gênant de voir. Parce qu'on voit tout, vous savez. Ça, c'est, on voit tout de suite. Je devrais me mettre là pour rien voir. Alors, ça, je parlerai sans vous voir, mais c'est très gênant aussi de parler sans voir. C'est pas agréable. Vous, dans la mesure où vous écoutez, vous rendez le professeur intelligent. Alors, si vous critiquez le professeur, il n'est pas assez intelligent, c'est à cause de vous. C'est tout simplement. Si vous écoutez avec un grand désir de chercher la vérité, vous rendez le professeur intelligent. Ça, c'est extraordinaire, mais c'est comme ça. Parce que il y a un dialogue constant. Un cours, c'est un dialogue. C'est pas un monologue. Un monologue, on donne le bouquin. Alors là, il répond pas le livre. Si je s'appuie ici, je comprends rien. Il répond pas. jour où je reprendrai les livres, ce qui serait pas très drôle pour vous, parce que vous pouvez les lire à côté. Alors il vaut mieux que le cours ne remplace pas la lecture des textes. Textes d'Aristote, textes de saint Thomas, avant tout, en premier lieu. Et puis, lorsque vous voulez prendre en philosophie, les livres que j'ai pu écrire pour les étudiants, je les ai écrits pour les étudiants. C'est eux qui m'ont demandé pour avoir quelque chose de stable, parce que l'écrit est stable, mais l'écrit seul n'est pas vivant. Et c'est la vie d'intelligence qu'on doit éveiller. Et c'est pour ça que la lecture des textes ne remplace jamais un cours. Ça, il faut bien se comprendre ça. Et au moment d'un cours, il y a des choses qu'on doit saisir. Alors, on les écrit parce que ça fixe, ça nous aide. Si vous étiez très très intelligent, vous n'auriez pas besoin d'écrire. C'est pas... Les étudiants, ce sont ceux qui écoutent. C'est pas nécessairement ceux qui écrivent. Mais la plupart du temps, quand on n'écrit pas, on a beaucoup de peine de fixer sa pensée. Quand on est déjà assez avancé, on peut très bien écouter un cours en écrivant de temps en temps telle chose. Mais ça, vous voyez, c'est pour ça que là-dessus, on a chacun sa manière d'écrire pour noter, pour fixer son attention. Et puis, le fait d'écouter, mais c'est avant tout écouter et coopérer avec le professeur. C'est dans ce sens-là que vous rendez le professeur intelligent. Parce que quand on fait un cours pour vous. C'est évident, c'est pour vous.